On parle, Claude, de président ce matin.
Car pour le G20 japonais qui débute, la presse internationale passe en revue des grands de ce monde et par ses différences, disons de déférence, nous renseigne sur les rapports de force du grand jeu. Et vous verrez que Vladimir Poutine prospère dans le Financial Times où il fait assaut de cynisme et de fierté. La guerre en Syrie, dit-il par exemple, a été une bonne chose puisque son armée y a acquis de l'expérience. Il s'amuse, monsieur Poutine, lisez le FT. Il résume sa politique d'un slogan populaire, celui qui ne prend pas de risques, ne boira pas le champagne, mais il est aussi sérieux, célébrant le tsar conquérant Pierre le Grand, son modèle. Et puis, brutalement, dans ce Financial Times, qui est l'organe central de l'Occident, Poutine proclame à la une sa victoire idéologique, l'idée libérale est devenue obsolète. Et il poursuit, le libéralisme a vécu trop longtemps, car il s'oppose aux intérêts de l'immense majorité des peuples. Pour M. Poutine, le libéralisme, c'est une idéologie qui, je cite, « permet aux migrants de tuer, piller, violer en toute impunité, parce que leurs droits de migrants sont protégés ». On est loin, avec M. Poutine, de l'urbanité des conversations Tocqueville qu'organise le Figaro en Normandie, où des intellectuels, à droite, autour de M. Blanquer, vont explorer le réveil des nations et des nationalismes qui sont revenus, lis-je joliment, des jardins d'Andalousie aux douces plaines de l'Italie centrale. Le Figaro veut acclimater ce retour sur l'égide de Tocqueville, penseur de la démocratie en Amérique. Belle tentative intellectuelle, mais que pèse-t-elle dans la réalité politique? Je lis dans Le Monde que Facebook non seulement veut battre monnaie, mais pense aussi maintenant créer son propre tribunal, une cour suprême personnelle à Facebook qui aurait compétence sur les contenus litigieux qui passent sur la plateforme. Vertigineuses ambitions, qui s'y opposera? Les nationalistes prospères ou les libéraux assiégés? Malheureux libéraux. Madame Merkel va mal, elle inquiète chez elle, me dit Le Monde. Car hier matin, pour la seconde fois en 10 jours, la chancelière a été prise en public de tremblement. Et le Bild Zeitung, grand journal populaire, s'interroge. À quel point la chancelière est-elle malade? Et le journal fait valser des diagnostics. Déshydratation, hypoglycémie, fatigue, sclérose en plaques. Die Welt, grand journal, demande la transparence, car la démocratie se prouve par les questions qu'elle autorise sur les grands. Notre président Macron, lui aussi, a eu des problèmes de santé, mais je vous rassure, ponctuel, il y a 13 ans, en 2006, il était invité en Amérique avec d'autres jeunes futurs leaders, et là, fut invité dans un restaurant mexicain de Pittsburgh. « Attention, lui dit-on, la sauce verte habanero est très épicée. Donnez-moi la bouteille, répondit Macron, qui s'en versa une cuillère à café sur un tacos, qu'il croqua en dépit des supplications, et alors devint tout rouge et dit « I have made a big mistake. » J'ai fait une grosse erreur. Et cette anecdote sur la confiance excessive d'un jeune homme, puis sur l'aveu de la faute, est ce qui justifie un long portrait du New Yorker, presque une métaphore. Monsieur Trump, lui, continue d'inquiéter, et le New York Times, ce matin, l'affiche en violeur présumé d'une grande journaliste, Jean Carroll, que l'alors simple businessman Trump aurait agressé dans une cabine d'essayage new-yorkaise en 1996. Et le New York Times se demande pourquoi cette femme parle maintenant et pas pendant. En 2016, pendant la campagne présidentielle, le New York Times, son édition de papier, raconte aussi une reine de beauté que le président gambien viola à 18 ans, accuse-t-elle. Le président Jammeh, lui, n'est pas au G20.
Et on s'inquiète aussi des viols à Nantes.
Car ils se multiplieraient dans les rues de l'ancienne capitale bretonne, dit Presse-Océan, sur des filles comme sur des garçons. Et c'est une curiosité triste de voir cette ville à nouveau mise à l'épreuve, puisqu'elle souffre encore cette semaine des brutalités policières qui ont marqué la fête de la musique quand des fêtards se retrouvèrent sous les gaz lacrymogènes, pataugeant pour leur vie dans la Loire, l'un d'eux n'en est parvenu, l'accumulation de témoignages dans Libération entretient ce malaise. Les inquiétudes persistent cette semaine comme la canicule qui ne nous quitte pas. La Provence dit drôlement, jadis quand on devisait météo c'est qu'on n'avait rien à dire, mais désormais le temps est une prophétie d'apocalypse que le journal provençal manie fort bien. Il imagine la canebière dans le futur recouverte d'eau, tandis que des poissons lapins, poissons pierres, poissons flûtes et poissons lions envahiront les calanques. Pourquoi souris-je quand même? Deux journaux se distinguent dans notre paysage, l'Humanité et la Croix, qui racontent la canicule dans les camps de sans-abri et un bidonville de Rome. Un journal communiste et un journal chrétien s'intéressent à ceux qui souffrent plus. Est-on surpris de cette dignité? À Brest, un homme revient dans l'actualité qui avait fait scandale il y a quelques années par des propos outranciers sur la musique qui transformerait ses adeptes en cochons. Rachid Abou Houdaïfa, l'imam de Brest, comme on disait, a été blessé par balle hier devant sa mosquée par un homme qui s'est ensuite suicidé. Et le Parisien et surtout le Télégramme racontent que cet homme, après le scandale, avait changé jusqu'à passer à l'université de Rennes un diplôme pour devenir référent laïcité. Daesh le détestait. La une du Télégramme, édition de Brest, est intéressante. Pontanezen, l'imam blessé par balle. Car Oufeida, chez lui, n'est pas l'imam de Brest, mais imam dans un quartier, dans le paysage.
Et c'est le grand jour des footballeuses, Claude.
Qu'on appelle à la gloire aux une des Parisiens, ce soir ou jamais de l'équipe. La conquête de l'Ouest, disent la Dépêche, le Maine Libre et le Courrier de l'Ouest, qui toutes nous parlent du rêve américain. Et l'équipe nous raconte à la base la puissance du football des filles d'Amérique, qui en cet été trépotent le ballon dans le summer camps, d'où elles sortiront, telles des athlètes, aux vertus de Navy Seals, les forces spéciales des Marines, qui ne cèdent jamais.
Merci Claude Ascolovitch.